Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce soir au débat sur les universités et les enseignements qui s'y tiennent. À l'ordre du jour ce soir, le militantisme, entre guillemets, pour faire une citation à l'université, pose-t-il un problème? Hier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, faisait à nouveau les gros titres de la presse avec l'entretien qu'elle accordait au JDD, au journal du dimanche, pour s'expliquer sur l'enquête qu'elle confirmait vouloir lancer pour, je cite, « protéger le pluralisme des idées à l'université ». Elle avait en effet affirmé vouloir séparer le militantisme de la recherche à l'université. Mais le militantisme n'a-t-il pas été un creuset pour toutes les sciences sociales? L'histoire ouvrière ne s'est-elle pas écrite grâce à des syndicalistes de tous bords tentant de trouver des réponses à leur situation contemporaine? Les études de genre ne sont-elles pas issues des combats féministes eux-mêmes? Lutter contre la routine académique peut-il être considéré comme un militantisme? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Rose-Marie Lagrave, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez cofondé le master genre, politique et sexualité à l'École des hautes études, et vous venez de publier un livre tout à fait revigorant qui s'appelle « Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe à la découverte ». Avec nous à distance, Nathalie Hennig, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vos derniers livres sont « Le pont neuf de Christo » aux éditions Thierry Marchès et également « La cadre analyse d'Erving Hoffman » c'est au CNRS édition. Et on peut mettre en parallèle le livre que vous aviez écrit il y a quelques temps, qui est maintenant en poche dans la collection Libre Champ, qui s'appelait « Une histoire de France, un récit sur votre propre itinéraire et votre propre famille ». Avec nous également Abdelali Ajad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes membre du GERM, le groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité. Vous êtes auteur notamment de La marche pour l'égalité contre le racisme, c'était aux éditions Amsterdam. Et vous êtes le co-auteur avec Marwan Mohamed de Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, c'était à la découverte.
J'ai été interrogée effectivement sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société, que le rôle de l'université était toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce fameux débat contradictoire plutôt que ces caricatures, et de faire en sorte que, justement, comme toujours, au sein des universités, au sein du monde de la recherche, eh bien, le débat se mène entre les pairs. Alors oui, en sociologie, on appelle ça mener une enquête. Oui, c'est le CNRS qui, actuellement, en la personne de son président, dirige l'Alliance des sciences humaines et sociales, Athéna. Et oui, je vais demander, effectivement, à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme.
Voilà, c'était le 16 février dernier, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche, Frédérique Vidal, qu'on entend beaucoup depuis la semaine dernière sur toutes ces questions. Alors, les universitaires empêchés, le débat contradictoire qu'il faudrait rétablir à l'université. Est-ce que vous avez l'impression, Rose-Marie Lagrave, qu'il n'y a pas de débat contradictoire à l'université et que, eh bien, les universitaires ou certains universitaires sont empêchés de pratiquer, comme on le dit?
Alors, dans toutes les universités, le débat scientifique et les controverses font partie des avancées de la recherche. Donc, dans le milieu académique, tous les chercheurs débattent et tous les chercheurs participent à des controverses. Donc ça fait partie de notre manière de travailler. Mais néanmoins, je voudrais dire que quand vous posez la question « Le militantisme à l'université pose-t-il un problème ?», je dirais « Le militantisme, c'est un enjeu de lutte. C'est un enjeu pour qualifier de militant A ou B. »
Celui qui est en face de soi.
Et le militantisme à l'université pose-t-il un problème ? C'est à qui ça pose un problème ?
Bah, visiblement à la ministre, en tous les cas.
Ça dépend ce qu'elle appelle militantisme. Je voudrais vous donner un exemple. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner un exemple. Mais lorsque nous avons créé les études de genre et un master genre à l'université, à l'école des hautes études en sciences sociales. Bien évidemment, comme toute innovation scientifique, comme toute innovation thématique, on nous disait « mais c'est un ghetto, c'est du séparatisme ». Or, quand on a commencé avec Michel Perrault à faire l'histoire des femmes, puis ensuite, à partir de l'histoire des femmes, de se rendre compte que hommes et femmes, il y avait quand même des inégalités et que donc le rapport de pouvoir se concentrait dans des rapports sociaux de sexe, donc le genre, on a dit « ah, le genre n'a rien à voir avec l'université ». C'est une théorie alors que c'est un concept. Donc, si vous voulez, à chaque fois, il me semble que quand il y a une innovation scientifique, elle est toujours mise sur le banc de...
du militantisme.
Voilà.
Sur ce point, Nathalie Hennick, vous qui avez signé des textes justement demandant plus de liberté de parole et liberté de débat au sein de l'université et de la recherche, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Rosemary Lagrave, vous qui êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS ?
C'est certain que le militantisme a beaucoup nourri, et heureusement, toutes sortes de recherches, mais il l'a nourri en leur procurant ce qu'on pourrait appeler une énergie émotionnelle, hein, pour reprendre le concept proposé par Randall Collins, le sociologue américain. Mais la recherche n'a pas besoin d'énergie émotionnelle, elle a besoin d'énergie intellectuelle. Et je crois que la grande différence, c'est que autant il est parfaitement légitime de défendre l'égalité homme-femme et toutes les formes d'égalité dans l'espace public, dans l'espace civique de la citoyenneté, autant il me semble que l'espace académique, l'espace épistémique, si on veut, de la production et de la transmission du savoir n'ont pas à être des lieux de lutte politique. Parce que pour les luttes politiques, on a ce qu'il faut. On a des associations, on a des partis. Et je pense que l'autonomie du savoir, l'autonomie de la recherche, c'est une valeur fondamentale qu'il faut défendre et que malheureusement ne défendent pas, loin de là, ceux qui préconisent de confondre l'arène civique du militantisme avec l'arène, disons, épistémique du savoir. Ah. Alors, je veux tout de suite dissiper un malentendu. Ces causes sont parfaitement légitimes. Hein. Je suis tout aussi antisexiste, antiraciste, anti-homophobe, etc., que la plupart des militants. Mais j'estime tout simplement qu'il faut respecter ce que Max Weber appelait la neutralité axiologique, c'est-à-dire le fait que dans le cas de son enseignement ou de sa production scientifique, un universitaire doit s'abstenir de donner son opinion personnelle sur des sujets de société. Il n'a pas à dire pour qui il va voter et il peut simplement analyser les sujets de société, les problèmes qui se posent, mais absolument pas donner son opinion personnelle, parce que ce serait une forme à la fois de... Enfin, ce serait une forme essentiellement d'abus d'autorité sur les étudiants. Nous avons heureusement cette base qui est la neutralité axiologique de Max Weber, et je pense que c'est absolument fondamental de la respecter.
Néanmoins, enfin, on y reviendra peut-être un peu plus tard, parce que je vais donner la parole à Abdelali Hajat, mais néanmoins, on peut dire, Nathalie Hennick, que, effectivement, beaucoup d'entre vous, et vous-même d'ailleurs, mélangent ce que vous appelez l'énergie émotionnelle et l'énergie intellectuelle, qui peuvent très régulièrement se nourrir l'une de l'autre, mais on y reviendra sûrement un peu plus tard. Abdelali Hajat.
On ne la mélange pas dans les mêmes supports, c'est-à-dire qu'un intellectuel a parfaitement le droit, c'est totalement légitime, d'exprimer ses opinions dans le cadre d'un journal, dans le cadre d'un débat public, mais ça n'est pas la même chose que de le faire dans le cadre universitaire.
Sur ce point, Abdelali Hajat, et vous qui avez travaillé justement sur la notion d'islamophobie avec Marwan Mohamed, sur la question de la marche donc pour l'égalité et contre le racisme. C'était un de vos premiers ouvrages, peut-être même le premier, je crois. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce débat tel qu'il est en train de se construire en France ces temps-ci ?
Je trouve que s'il s'agit de défendre l'autonomie de la recherche sur un certain nombre de domaines, que ce soit les études de genre, les études sur la question raciale, etc., il devrait être évident de consacrer son énergie à faire la controverse au sein de l'espace académique. Et donc, ça passe par la publication de recensions, d'ouvrages, ça passe par la publication d'articles dans des revues à comité de lecture, d'ouvrages dans des maisons d'édition, etc. Or là, c'est pas ça l'enjeu. Donc là, l'enjeu, c'est qu'il y a un groupe d'universitaires qui interviennent dans l'espace public via des tribunes, via des organisations plus ou moins informelles, des observatoires, etc.
Vous parlez de l'observatoire du décolonialisme, je crois, c'est cela que vous pointez du doigt.
Il y a aussi le réseau qui est plus informel, me semble-t-il, de Vigilance Université, qui ne participe pas à la controverse scientifique sur les études de genre, sur la question de l'islamophobie, sur les études, sur la question raciale. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'exercer un contrôle via une dimension extérieure au champ académique pour contrôler d'une manière ou d'une autre, ou empêcher d'une manière ou d'une autre, le développement de ce type de demande de recherche. Et l'exemple de l'islamophobie est quand même frappant. J'ai publié l'année dernière un article dans la revue Current Sociology sur la controverse académique sur l'islamophobie. Donc j'ai recensé tous les articles qui ont été écrits par des académiques qui mobilisant le concept d'islamophobie. Et il est quand même frappant qu'en France, le concept d'islamophobie est discuté par des universitaires en dehors du champ académique. Donc on publie des tribunes dans Le Monde, Libération, etc. Mais on ne publie très rarement d'articles dans des revues à comité de lecture, en sociologie, en histoire, etc. Et c'est très spécifique à la France, puisque quand on regarde comment le concept d'islamophobie a été discuté en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où il y a eu des controverses également, donc tout le monde n'est pas d'accord avec l'usage du concept d'islamophobie, donc il y a des controverses même par rapport à cette définition. Donc il y a des approches différentes, mais c'est resté dans le champ académique. Mmh. Et on a eu quand même une discussion académique qui était assez apaisée. Donc moi, je vois quelque chose de très contradictoire dans l'affirmation selon laquelle on souhaite préserver l'autonomie de la recherche tout en exerçant des pressions politiques pour justement mais remettre en cause cette autonomie.
Sur ce point, Nathalie Hennig, puisque je crois que vous n'êtes pas d'accord sur ce point avec justement Abdelali Ajat.
Non, bien sûr que non, puisque le contrôle que nous appelons, c'est un contrôle proprement académique, c'est-à-dire le contrôle par les pairs de la rigueur du travail qui est fait et de son adéquation avec nos critères que nous partageons tous, en fonction desquels nous avons été recrutés, critères de rigueur et de scientificité. Mais si on prend l'exemple de l'islamophobie, on voit bien que dans le travail qui est fait par les chercheurs qui se sont spécialisés, et notamment par Abdelali Ajat, il y a l'idée que l'islamophobie serait l'équivalent du racisme. On a une confusion entre la race et la religion, ce qui est quand même très problématique, puisque la race, on ne peut pas y échapper, alors que la religion, normalement, en tout cas en France, on l'a choisie. Et par ailleurs, le racisme est quelque chose de totalement illégal en France, alors que le refus des religions ou la haine des religions est parfaitement légal. Nous avons, depuis la Révolution française, heureusement, le droit d'exprimer publiquement notre rejet d'une religion ou de toutes les religions. Et donc, confondre à la fois la race et la religion et confondre le légal et l'illégal, à mon avis, ça n'est pas conforme aux critères de rigueur que nous sommes en droit d'attendre des sciences sociales, et il est parfaitement légitime que des collègues protestent et demandent qu'il y ait un contrôle plus fort sur la qualité proprement scientifique de ces productions.
Alors, Abdelali Ajat va vous répondre, mais je ne voudrais pas oublier. Je voudrais pas oublier Rosemarie Lagrave qui va intervenir tout de suite après. Abdelali Ajat, très brièvement, et je redonne la parole à Rosemarie Lagrave.
Là, ce qui est vraiment très intéressant dans ce que vient de dire Mme Hennig, c'est qu'elle remet en cause ma propre qualité d'universitaire.
Donc, je remets en cause la qualité du concept d'islamophobie d'un point de vue universitaire. C'est un concept militant et ça n'est pas un concept rigoureux.
Je ne vous ai pas interrompu. On a publié avec Marwan Mohamed un numéro de la revue Sociologie en 2014 avec un processus d'évaluation par les pairs. Donc c'est en termes de rigueur académique, on a respecté les rigueurs. On propose une définition de l'islamophobie qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. La question que je me pose, c'est est-ce que vous et d'autres personnes qui travaillent, enfin qui tiennent les discours publics pour disqualifier les gens qui travaillent sur l'islamophobie, est-ce que vous avez lu toutes les publications, les pléthores de publications que nous on a fait sur la question. Parce que si vous aviez fait un minimum d'état de l'art, c'est-à-dire ce qu'on demande aux étudiants lorsqu'ils présentent un mémoire, un sujet de mémoire, vous ne diriez pas ce que vous dites maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec la définition de l'islamophobie que nous on propose ou que d'autres proposent.
Je donne la parole à Rosemarie Lagrave. Excusez-moi.
Juste, je précise quand même que...
Ce n'est pas un duo.
Dans la quatrième de coup.
Allez-y.
Je précise juste que dans la quatrième de couverture de votre livre, il y a écrit qu'il s'agit d'une description rigoureuse des discours et actes islamophobes en les inscrivant dans l'histoire longue du racisme colonial. Il me semble bien que ce que je viens de pointer est parfaitement écrit dans votre texte. Mais je laisse parler Rosemarie.
Oui, Rosemarie Lagrave.
Oui, je vais revenir, non pas dans toute autre chose, mais la réponse que vous venez de faire, Nathalie Hennick, j'allais dire, vous vous mettez en surplomb en vous faisant juge de ce qui est rigoureux, scientifique. Moi, je serais plus modeste. Je veux dire, il me faudrait me discuter sur des textes avec des pairs, avec des controverses, pour décerner des prix. Je ne me vois pas décerner des prix à quelqu'un et à dire il n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique. Vous dites, quand vous dites ça, moi, je me replonge dans les années 1989-1990 en Europe de l'Est, où j'avais fait une mission envoyée par le ministère des Affaires étrangères pour faire un bilan des sciences sociales. Et ce que j'avais vu, c'est une rumeur assassine que j'ai appelée une épuration scientifique. C'est-à-dire que les uns et les autres collègues dans tous ces pays me disaient pique-pente sur les uns et les autres, et ça, on en arrivait à exclure certains et à dire ce qu'était la science, alors que personne ne savait ce que c'était. Et lorsque vous vous référez à Weber en disant « Oh là là, mais la neutralité axiologique... »
Il faut expliquer à nos auditeurs, parce que tout le monde n'est pas lecteur de Max Weber, non, ce qu'il entend par neutralité axiologique.
Justement, ce n'est pas lui qui a prononcé ce mot-là, c'est Parkson. Ce que disait Max Weber, c'est qu'il ne fallait pas, devant les étudiants, faire un bourrage de crâne, au sens de laisser passer ses propres jugements, mais les passer au crible, effectivement, de la science. Hein. Et il parlait d'ailleurs, si je me souviens bien, si je ne fais pas de bêtises, devant des étudiants de droite. Et si je me souviens bien, et peut-être Nathalie Hennick sera d'accord avec moi, tant Durkheim que Weber avaient des positions politiques. Et quand vous dites, Nathalie Hennick, qu'il faut faire une disjonction entre le scientifique et le politique, et que ce serait le militantisme est une énergie émotionnelle, moi, elle ne m'a pas donné du tout d'énergie émotionnelle. Elle m'a donné, au contraire, une énigme, une curiosité, une capacité à me coltiner à toutes les schémas androcentriques qui effectivement ne voulaient pas voir donner une invisibilité aux femmes, et je ne suis pas la seule, hein, on fait ça collectivement, et il me semble qu'il y a des passerelles entre, quand par exemple les climatologues disent il y a un réchauffement climatique, mais ça a donné des billes à tout le mouvement écologique. Hein. Et donc,
vous voulez dire que la société répond à...
Mais
à
voilà, il y a une réciprocité. Et il y a des passerelles entre les deux.
Nathalie Hennick, pour répondre à Rosemarie Lagrave avant une très courte pause.
Oui, bien évidemment qu'il y a des passerelles, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est formidable d'avoir cette énergie que donne le militantisme, mais une fois qu'on est dans l'enceinte académique, ce n'est pas le critère de l'engagement qui doit jouer, ni le critère de la volonté de faire advenir une cause politique, mais encore une fois, le critère d'une certaine rigueur, donc nous connaissons tous plus ou moins les fondements, et notamment la question de la clarification des concepts. Et je vous donne juste un exemple emprunté au féminisme, puisque Rosemarie Lagrave, vous êtes très impliquée là-dedans. Aujourd'hui, on a une universitaire qui déclare publiquement pourchasser l'homme blanc hétérosexuel. Comment peut-on accepter que dans le cadre de son enseignement et de son travail, quelqu'un puisse tenir un propos qui est un exemple à la fois de sexisme, de racisme et de discrimination basée sur l'orientation sexuelle, et en plus en le légitimant au nom de la lutte contre le sexisme, le racisme et l'homophobie. On a quand même des exemples sidérants de de piétinement, si on peut dire, de valeurs à la fois politiques, en l'occurrence, et, mais surtout de valeurs de cohérence scientifique. Lorsqu'on a une recherche en géographie de la sexualité sur les pratiques lesbiennes sur les plages bretonnes, on peut se demander quelle est la qualité de ce type de production et leur degré de montée.
Rosemarie Lagrave vous répond sur ce point.
On a la Sorbonne vient de recruter une universitaire spécialiste des queer studies qui se présente comme activiste et militante queer. Il y a encore une fois des associations et des partis pour militer. Pourquoi est-ce que le monde universitaire devrait être contaminés par des objectifs qui ne sont pas ceux de la production des connaissances, mais ceux de causes politiques à faire triompher.
Rosemarie Lagrave vous répond.
Oui, je ne sais pas si je vais vous répondre vraiment, mais l'expérience que j'ai, c'est qu'il faut vraiment du militantisme institutionnel pour faire émerger des thématiques qui sont réputées non légitimes dans un espace académique qui est quelquefois routinier, mais qui souvent au fond refuse ou marginalise des thématiques qui mettent en cause le monde tel qu'il va, comme, pour parler comme Boltanski. Et donc toutes ces thématiques qui dérangent un peu, qui effectivement mettent le fer là où ça fait mal, eh bien on dit que c'est du militantisme. Mais moi je pense que c'est du militantisme pour que des causes scientifiques qui sont marginalisés puissent avoir droit de citer à l'intérieur du champ académique. Et quand vous dites c'est ridicule, les femmes sur les, je sais pas, sur les côtes bretonnes, mais vous avez lu le master ou la thèse? Moi, je ne peux pas mettre comme ça des jugements. J'ai dirigé beaucoup de masters, beaucoup de thèses. Sur des sujets dont vous diriez, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la science? Mais bon sang, il y avait des jurys, il y avait des pairs, elles ont été publiées, et je ne vois pas au nom de quoi vous vous mettez en juge suprême, de la Cour suprême.
Vous écoutez le temps du débat, le militantisme à l'université pose-t-il problème, avec Rosemarie Lagrave que vous venez d'entendre, Nathalie Hennick, qu'on vient d'entendre également, et Abdelali Ajat.
L'impérialisme dicte partout sa loi, la révolution n'est pas un dîner.
Le temps du débat.
Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao.
Emmanuel Laurentin.
Mao Mao de Claude Chan dans le film de Jean-Luc Godard, La Chinoise, bien entendu, où des étudiants maoïstes se posent bruyamment aux socialistes, symbole d'un des nombreux débats qui ont secoué les universités en France. C'était dans les années 1960. Abdelali Ajat, vous qui travaillez sur cette question justement de l'égalité, du racisme, de l'islamophobie, vous enseignez maintenant à l'Université libre de Bruxelles. Donc vous avez longtemps enseigné. Vous êtes sociologue et vous avez longtemps enseigné à Nanterre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti vous installer à Bruxelles? C'est parce qu'il y avait un poste plus intéressant à Bruxelles? C'est parce que, quelles sont les raisons de votre départ à Bruxelles, Abdelali Ajat?
Il y a plusieurs raisons qui renvoient à des dysfonctionnements, on va dire, institutionnels de l'université française en général. Mais la raison principale, c'est la grande difficulté que j'ai eue à mener un travail serein sur la question de l'islamophobie.
Parce que, vous voulez dire que vous étiez un universitaire empêché, comme le disait la ministre à propos d'autres personnes que vous?
Parce que les universitaires empêchés dont parle la ministre, ça concerne d'autres personnes qui bon, je ne sais pas de qui elle parle, mais je ne pense pas qu'elle pensait à des gens comme moi. Ouais. Puisque, en fait, les personnes qui travaillent sur les questions raciales, questions de genre, questions d'islamophobie, etc., ou d'intersectionnalité, ce sont eux qui sont la cible. C'est nous qui sommes ciblés dans les débats publics. Donc, parfois, la cible est évanescente. Donc, on ne cite pas de nom en disant que ces chercheurs, ces chercheuses se seraient remettraient en cause carrément la République, voire même seraient des ennemis de la République. Donc le terme d'islamo-gauchiste, il renvoie à ça. Il y a une connexion qui est faite entre des recherches et des mouvements islamistes et se sont lancés dans des attaques terroristes en France. Donc c'est ça l'enjeu, quand même. C'est l'idée de complicité que des chercheurs auraient avec le terrorisme.
Alors, on vous a pas accusé de cela pour l'instant, Abdelali Ajat.
Mais bien sûr que si. Vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a des listes d'universitaires qui sont établies par des journalistes ou des polémistes qui identifient des gens comme Vincent Jesser, Raphaël Liogier, moi-même, Marwan Mohamed, Nassira Guenif, Eric Fassin, etc., qui sont considérés comme des personnes dangereuses et qui seraient complices du terrorisme. Donc c'est ça dont on parle. Donc pour répondre à votre question, j'ai subi moi-même des menaces de mort, j'ai subi moi-même des attaques, des accusations d'antisémitisme, de complicité du terrorisme, et c'est ce climat pesant qui m'a fait vouloir partir de France.
Et vous voulez dire que vous ne l'avez pas trouvé à Bruxelles, ce climat ?
À Bruxelles, le champ universitaire respecte les libertés académiques, ce qui fait que j'ai été recruté malgré, entre guillemets, que les mots qui fâchent en France, islamophobie, racialisation, etc., étaient dans mon CV.
Sur ce point, Nathalie Hennig, est-ce que vous pensez que justement Abdelali Ajat est un exemple justement de ce qui ne fonctionne pas dans la manière dont on débat à l'université, c'est-à-dire qu'il aurait pu rester à l'université française, hein, du moins c'est ce qu'il dit justement, parce qu'il en a été empêché, il est parti s'installer à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Nathalie Hennig?
Écoutez, si j'essaye de décrypter les propos de la ministre, ce à quoi elle faisait allusion, c'est au fait qu'aujourd'hui, étant donné la façon dont sont fléchés les financements au niveau national comme au niveau européen, les projets de recherche, les bourses, etc., les meilleurs islamologues actuellement ne parviennent pas à obtenir de financement parce que tous ces financements sont actuellement fléchés sur des travaux sur l'islamophobie. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à Bruxelles, mais en tout cas, on ne manque pas d'argent, très loin de là, pour les thèmes qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui liés à des studies, hein, les gender studies, les racial studies, les queer studies, etc., qui sont très fortement liés à des causes militantes. Encore une fois, ces causes sont légitimes, mais je pense que le cadre universitaire n'est pas légitime pour les mener. Et on a vraiment une difficulté, lorsqu'on ne travaille pas sur ce type de thème, à obtenir des financements. Et par ailleurs, s'il y a ostracisme, il est vraiment dans les deux sens. Notre collègue sociologue Stéphane Dorin, en 2018, a été exclu de son laboratoire à l'Université de Limoges parce qu'il s'était opposé à l'invitation de Ouria Boutelja, porte-parole du Parti des indigènes de la République, dont les propos antisémites sont assez notoires, et qui est tout sauf une chercheuse, et qui est une militante engagée du côté de ce qu'on appelle justement l'islamo-gauchisme. Donc il y a des problèmes de tous les côtés, il y a eu pas mal de cas d'empêchement de conférences, d'annulation, de colloques, etc., parce qu'il y avait des menaces liés à des militants chercheurs ou à des étudiants militants. Donc s'il y a une atteinte aux libertés académiques, il me semble qu'actuellement, en nombre de cas, elles sont en tout cas beaucoup plus souvent répertoriées du côté d'atteintes menées par des militants contre des chercheurs que le contraire.
Rosemarie Lagrave.
Oui, je voudrais reprendre ce que vous venez de dire. Vous aviez dit... Le cadre académique n'est pas un cadre légitime pour les études de genre.
Donc, non, pas pour les études de genre.
Vous avez dit ça des...
Pour le militantisme.
Non. Vous avez dit
pour le militantisme. Les études de genre sont parfaitement légitimes.
Non, vous avez dit les gender studies, vous avez dit les gender studies, enfin, vous avez énuméré un certain nombre de studies, dont les études de genre, en disant que l'université n'est pas le cadre légitime pour les faire. Donc vous,
dès lors qu'elle s'oriente vers
dès lors, vous le savez fort bien, parce que ça, vous êtes en train de déjuger des gens aussi extraordinaires que Françoise Héritier, Perrault et Michel Perrault ou d'autres. Ça veut dire aussi que vous le savez fort bien, lorsque nous avions des questions qui étaient alimentées par le mouvement social, on les reprend jamais telles quelles. On les reconfigure et on essaie effectivement de les travailler, d'en faire effectivement des outils à la fois méthodologiques et conceptuels pour retravailler l'histoire de France ou l'histoire du monde ouvrier, et on ne le reprend pas. Donc ce que vous dites d'abord est important, est faux. Deuxièmement, je suis frappé, mais vous allez me dire si je me trompe, vous faites des généralités sur le nombre de gens qui seraient empêchés d'enseigner, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais vu dans les universités des gens qui étaient empêchés d'enseigner. Comme vous le savez bien, depuis le Moyen-Âge, il y a des controverses ou des chahuts d'étudiants vis-à-vis des professeurs. Et ça, c'est une constante dans l'université française. Et j'allais dire, c'est normal. Ça fait partie des règles du jeu. Et je trouve que vous en faites toute une histoire maintenant. Et j'attire votre attention. Moi, j'ai été très, très touché par la lettre écrite par Pinar Selek à la ministre.
Alors, il faut rappeler qui est Pinar Selek. C'était une universitaire turque qui a dû quitter son propre pays devant l'islamisation de l'université turque et qui vient d'écrire, je crois que c'est sur Mediapart hier soir, un texte à la ministre en disant « Vous m'avez accueilli lorsque vous étiez président de l'université de Nice. Ce que je vois dans vos paroles, c'est quelque chose qui me fait penser à ce que j'ai connu, moi, en quittant l'université turque que je devais quitter parce que je ne pouvais plus rester. »
Et avec qui nous étions mobilisés justement pour sa libération.
Sur ce point,
peut-être qu'il faudrait, Nathalie, il faudrait faire une petite mise en perspective historique sur le fait que la confusion entre l'engagement ou le militantisme et la science a été de tout temps, en tout cas au XXe siècle, le fait des régimes totalitaires. Ça a commencé avec les régimes fascistes, le régime nazi et surtout le régime stalinien qui a poussé très loin cette volonté de subordonner le travail d'établissement du savoir à des objectifs militants, à des objectifs politiques.
Mais donc, c'était voulu par le pouvoir, Nathalie Hennig, juste une question.
Avoir en tête,
c'était voulu par le pouvoir, là en l'occurrence, ce que semble dire le pouvoir, en tout cas le porte-parole du pouvoir que peut-être la ministre Frédérique Vidal, c'est que ça serait interne à l'université qui s'imposerait, ça s'imposerait et il n'y aurait plus de débat possible. Ça n'est pas tout à fait la même chose, je ne sais pas, je vous pose la question, Nathalie.
Si vous vous souvenez de ce qui se passait dans les années 50-60 dans l'université française, ça n'était pas le pouvoir qui imposait un programme politique aux universités, c'était les marxistes eux-mêmes, c'était les enseignants et des étudiants. Donc la question du stalinisme a été une question à l'université qui est venue des universitaires eux-mêmes, avec des catastrophes évidemment du point de vue de la qualité du travail.
Abdel Ali Ajad, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce qu'il y a quand même un paradoxe par rapport à ce que peut dire Madame Hennig et des personnes qui l'entourent. C'est l'idée qu'elle-même ne tiendrait pas des positions politiques, qu'elle-même serait neutre. Or, elle tient des positions politiques sur l'état de la société, elle tient des propos politiques sur les études de genre. Là, vous avez quand même qualifié les études de genre comme étant du crétinisme intellectuel institutionalisé.
Et donc dans une je n'ai pas utilisé ce terme-là quand même. Et je vous fais remarquer que nous sommes dans une journal... émission de radio et qu'une émission de radio n'est pas une publication scientifique. Donc non, bien évidemment...
Non, l'humanisme, dans la revue Humanisme en 2017...
Mais dans le cadre de l'espace public.
Excusez-moi, laissez-moi terminer. Vous avez dit, je vous lis en même temps, que les études de genre correspondent à du crétinisme intellectuel institutionnalisé. Donc vous avez des positions politiques.
Je l'ai écrit dans quoi? Je l'ai écrit dans quoi?
Humanisme, entretien avec Giorgio Gelsi, Humanisme, en 2017, numéro 315.
Absolument, ça n'est absolument pas une revue scientifique, c'est une revue
de débat d'idées. Vous avez des positions politiques.
Absolument, et je maintiens la possibilité dans des revues d'idées.
Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc vous avez des positions politiques, et vous les assumez. Et je ne vais pas vous le reprocher.
Absolument.
Je ne vais pas vous le reprocher.
Non, mais vous,
la question qui se pose, c'est pourquoi vous pouvez avoir des positions politiques et mener un travail de recherche selon les règles de la méthode, et d'autres chercheurs ne pourraient pas faire la même chose.
Je crois que vous n'avez pas
pourquoi vous niez la scientificité des personnes qui travaillent sur les études de genre, sur la question raciale, etc., dès lors qu'ils font partie du métier. Ce sont vos collègues.
Nathalie Hennig, je nie simplement, premièrement, la qualité. Je conteste, je débat sur la qualité du travail scientifique et c'est un travail que nous devons tous faire.
De quel droit vous permettez de vous
parce que je suis moi-même sociologue et que tout sociologue a le droit de discuter de la qualité scientifique de ses collègues.
Oui, mais vous ne faites pas dans la reine universitaire.
Les fondements de notre discipline. Par ailleurs, les positions politiques que je peux prendre, je les prends exclusivement dans des revues d'idées, dans des journaux, dans des émissions, mais je vous mets au défi de trouver la moindre position politique dans mes travaux de chercheur publiés dans des publications scientifiques.
Voilà. Rosemarie Lagrave.
Absolument à cette distinction qui me paraît fondamentale.
Rosemarie Lagrave.
Écoutez, c'est difficile pour moi d'intervenir parce que du coup, je me sens critique féministe, une crétine un peu. Mais justement, quand vous vous arrogez le droit de mettre d'un côté le grain et l'ivraie, je me souviens que vous aviez pris aussi position contre Christine Delphi à l'occasion de la sortie d'un de ses livres.
Christine Delphi, donc, c'est une des pionnières de.
Voilà, vous demandiez déjà un sérieux resserrement des procédures d'évaluation du CNRS parce qu'elle avait été promue directrice de recherche. Or, et vous le savez vous-même, pendant plus de 10 ans, elle a caché ses articles en études de genre parce que justement, on ne pouvait pas passer au CNRS avec de tels articles. Alors, vous jouez les deux choses, Nathalie.
C'est qu'on a très peu de temps, il nous reste une minute. Nathalie Hennig, je vous redonne la parole pour conclure parce qu'il faut répondre à ce que vient de dire Rosemarie Lagrave.
Encore une fois, je ne critique pas les études de genre qui sont un domaine parfaitement légitime, à condition qu'elles ne prennent pas l'allure qu'elles sont en train de prendre sous l'influence de ces studies américaines qui consistent à confondre systématiquement le militantisme, la volonté de faire avancer une cause, par exemple la non-discrimination des femmes, avec le souci de créer un nouveau savoir, de créer de la connaissance. Et je pense que les deux objectifs ne vont pas ensemble et doivent absolument être distingués.
Merci à tous les trois d'avoir débattu fermement, mais poliment les uns avec les autres. Rosemarie Lagrave, vous venez de publier un très beau livre d'autobiographie qui s'appelle « Enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe ». C'est à la découverte, ça s'appelle « Se ressaisir ». Merci à vous Abdelali Ajat d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que « Islamophobie » est publié également aux éditions de la découverte. Et merci à vous Nathalie Hennig, une histoire de France, on peut la trouver dans la collection Libre chez Champ Flammarion et également d'autres livres chez Thierry Marchès. Je ne les ai plus sous les yeux, mais c'est le Pont Neuf de Christo en particulier. Merci à tous les trois. C'était le Temps du Débat. Bruno Barada, Fanny Richet, Manon Prissé, Rémi Baille, Hugo Boursier, Adèle Rosier. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. À la réalisation, Alexandre Manzanares.